implore à Dieu. C'est toujours un honneur, c'est toujours un privilège de pouvoir se retrouver et louer Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme qui, la parole de Dieu ne nous parle pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de descriptions, mais un homme à qui a été fait un privilège. Il s'appelle Obed-Edom. Vous connaissez, vous ? Comment ? Ah ! Cet homme va recevoir dans sa maison l'arche de l'Éternel pendant 3 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et comment les choses se sont produites pour que cet homme, finalement, accueille chez lui, sous son toit, l'arche de l'Éternel ? On va lire quelques textes ensemble ce matin et j'aimerais parler de la place qui doit avoir notre louange, notre adoration devant Dieu, la manière où Dieu veut être adoré, la manière où nous devons aussi apprendre à adorer Dieu. Amen. Parce que tout n'est pas forcément de l'adoration. En tous les cas, pas tout ce que nous pensons, nous, être une adoration. D'ailleurs, dans ces textes, nous allons voir qu'il y a eu des choses qui ont été faites et finalement, Dieu ne les a pas agréées. Donc, que Dieu nous aide à comprendre, à saisir, mais surtout à vivre ce privilège de nous approcher de Dieu avec un cœur simple et sincère. On va faire une première lecture qui se trouve en 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 1 au verset 11. 2 Samuel chapitre 6, les versets 1 au verset 11. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et David avec tout le peuple qui était auprès de lui se leva et partit de Baal et Juda pour en faire monter l'arche de Dieu, devant laquelle était invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline. Uzza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils emportèrent donc de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ahio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel sous toutes sortes d'instruments, de bois, de cypre, et des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakhon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs avaient glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa là à cause de ce sacrilège. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Et l'on appelle ce lieu Pérez Uzza jusqu'à ce jour. David craignit l'Éternel en ce jour-là et dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Amen. En lisant ce texte, on pourrait être étonné de la manière où les choses se sont passées. Pour quelle raison Dieu a pu agir de cette manière-là, alors que le peuple se réjouissait, David, le roi David, l'homme choisi par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, avait avec lui 30 000 hommes d'élite, donc je dirais la crème de la crème de la crème. Ils étaient là pour accompagner l'arrivée de l'arche à Jérusalem. Quel moment de bonheur après tant et tant d'années où cette arche n'avait pas pu être au centre de la vie, je dirais, et de la foi, Jérusalem. Finalement, on voit dans ce texte qu'il y a quelque chose qui se produit qui ne convient pas à Dieu. Ce n'est pas parce que nous, on pense que certaines choses soient bien, qu'elles soient forcément bien. D'ailleurs, on verra dans ce texte quelque chose qui va se produire et qui va finalement causer de la souffrance, de la peine, voire même de la colère, parce que David dira, il s'est mis en colère. et il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui. Mais pourquoi nous en sommes là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? En effet, en 1 Samuel chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 8, mais on ne va pas tout lire, il y a eu un moment où l'arche a été récupérée par les Philistins parce qu'ils avaient vaincu Israël. Israël était parti à la guerre en pensant qu'ils étaient les plus forts, les meilleurs, sans se concerter avec Dieu et dire « est-ce qu'on doit y aller ?» Et nous, parfois, on fait de même, on part dans des combats que Dieu ne nous a pas donnés. Et les conséquences, parfois, elles sont catastrophiques. Ça a été le cas. Finalement, les Philistins ont récupéré l'arche de l'Éternel qui était jusque-là quelque chose qui donnait force au peuple d'Israël. Si vous lisez bien dans les textes, lorsque l'arche de l'Éternel était amenée dans le campement, le peuple criait, louait Dieu et la terreur rentrait dans le campement de l'ennemi. Ils savaient que l'arche de l'Éternel était là, ils n'auraient pas eu la victoire. Et ils ont fait de même pour ce dernier combat que finalement ils ont perdu parce que l'arche de l'Éternel n'était pas un porte-bonheur. Ne faisons pas l'erreur de croire que Dieu est un porte-bonheur. Ne faisons pas l'erreur d'utiliser le nom de l'Éternel en tout et pour tout, comme si c'était tout simplement un condiment qu'on rajoute à nos propres popotes. J'ai fait cela, je dis Alléluia, c'est sanctifié, purifié, c'est bon. Nous ne pouvons pas spiritualiser tout, mais nous devons veiller à agir selon la parole de Dieu. L'arche est prise, les Philistins, ils la ramènent chez eux, ils pensent que finalement ils ont la victoire, ils ont réussi là où les Juifs jusque-là ils leur avaient empêché de réussir, et finalement ils s'attirent un ensemble de problématiques. Je vous invite à lire les textes, il est question, finalement, ils auront même des hémorroïdes. Ah, c'est grave, hein, ça fait mal. Lorsqu'ils posent la question, finalement, aux sages de leur peuple, les Philistins, ils vont avoir une réponse au verset 6. Il dit « Pourquoi endurcissiez-vous votre cœur ?» Comme les Égyptiens et le Pharaon ont endurci leur cœur, lorsque Dieu agit lui-même contre eux, ne renvoyerait-il pas les Israélites qui purent partir? Maintenant, faites prendre un char tout neuf et deux vaches qui allaitent et qui n'aient pas porté de joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffret les objets d'or que vous lui apporter en sacrifice de culpabilité, puis vous la renverrez et elle partira. En effet, les Philistins vont apporter une image, quelque chose qui doit rappeler ce qu'ils ont fait, un sacrifice de culpabilité. Donc, ils vont faire 5 images d'hémorroïdes en or, et 5 souris en or, d'après le nombre des ducs des Philistins. Ils prennent ces objets. Ils les mettent dans un coffret, ils mettent l'arche sur un char et ils laissent aller le char en sachant que, comme ces animaux avaient des petits, normalement, jamais ils auraient dû s'éloigner. Et pourtant, elles partiront, elles iront dans la bonne direction pour amener l'arche de l'Éternel là où elle devait être sa place. On pourrait se dire finalement, les Philistins, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas. Dieu a réagi et a agi. Amen. Alléluia. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont pensé. Si vous prenez en 1 Samuel au chapitre 6, les versets 13 à 20, on ne va pas tout lire encore une fois pour essayer d'être plus concis possible, mais il dit le texte, les gens de Beth-Shemek moissonnaient les blés dans la vallée, ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemek et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre, on fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffret qui était avec elle et qui contenait les objets d'or, ils les posèrent sur la grande pierre. Alors les gens de Beth-Shemek offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Le texte dit que les 5 ducs ont vu depuis loin ce qui se passait. En tous les cas, ils se sentaient mieux parce qu'ils s'étaient débarrassés de ce qui leur produisait tant et tant de peine. finalement, on ne peut pas se servir du nom de Dieu. Finalement, si on lit ce texte, on comprend bien qu'on ne peut pas utiliser le nom de l'Éternel pour tout et n'importe quoi. Mais nous devons être attentifs à la manière où Dieu veut être servi. Si vous lisez bien ce que nous venons d'analyser ensemble, finalement, le peuple se réjouit. Il pourrait se dire, malgré tout, voilà, l'arche de l'Éternel revient, la victoire revient, le Seigneur est avec nous. Comme parfois on est capable de le dire, le Seigneur est avec moi, tout ce que je fais, où j'irai, il ira. Attention, Dieu ne va pas nulle part, n'importe où. Hein. Parfois on va dans des endroits, il faudrait vraiment se poser la question si Dieu y irait. Un jour, un jeune homme me dit, pasteur, est-ce que je peux aller à la discothèque ? Et je dis, est-ce que Jésus l'irait ? Ah non. Eh bien, si lui ne peut pas y aller, toi non plus. Si ce n'est pas bon pour lui, ce n'est pas bon pour toi. Hein. Alors, la semaine d'après, il revient et pasteur, est-ce que... Et je dis, attends, la règle, elle est simple. Demande-toi si le Seigneur y va. S'il n'y va pas, abstiens-toi. Et il a compris. Et je crois que dans ce texte, on voit quelque chose, c'est que les gens de Beth-Shemesh, ils ont offert tout de suite des holocaustes à l'Éternel. C'était des bons religieux. Hein. On pourrait se dire, mais ils ont fait ce qu'il fallait. De la même manière que David, avec le peuple, ils ont sorti les instruments, ils ont loué Dieu, ils ont acclamé des cymbales, de la musique, c'est super. Et pourtant, il dit la parole de Dieu que Uzza mourut. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à l'Éternel. Si on va au verset 19 de ce même chapitre de 1 Samuel 6, au verset 19, il dit « L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils fixèrent les regards sur l'arche de l'Éternel. Il frappa 70 hommes sur 50 000 parmi le peuple. Et le peuple prit le deuil parce que l'Éternel l'avait frappé d'un grand coup. » Les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint ? Envers qui montera-t-il et s'éloignera, pardon, en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yarim pour leur dire « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. » En peu de paroles, chez nous ça gêne, prenez-la vous. Finalement, quand le Seigneur est là, il fait ressortir ce qui ne va pas dans notre vie. Et au lieu de faire le choix de dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie pour que je puisse l'enlever ? Eux, ils ont fait le choix d'enlever la présence de Dieu parmi eux pour rester où ils en étaient. Combien aujourd'hui font encore ce choix de dire, ok, la Bible dit ceci, mais moi, je fais autrement. Alors, l'arche de l'Éternel a été déplacée. Et si vous prenez 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 2, au verset 2, il nous dit que l'arche, elle va rester à Kiriath-Yarim pendant 20 ans. 20 ans. 20 ans. C'est long, hein? Et en lisant ça, je me disais, ok, l'arche de l'Éternel reste là pendant 20 ans. Ça veut dire que pendant 20 ans, le peuple a continué à vivre dans son péché. Ça veut dire que le peuple d'Israël, il ne s'est pas remis en question. Ils ont vécu pendant 20 ans de leur vie à faire des sacrifices, à faire des rituels, à faire des choses qui finalement, l'Éternel, puisqu'il n'était pas parmi eux, ils ne pouvaient pas l'accepter. On peut parfois croire que ces choses-là ont un sens. J'ai vécu pendant une grande partie de ma jeunesse, je ne suis pas vieux quand même, mais pendant 30 ans, j'ai vécu dans un pays qui est très religieux, l'Italie. Le sud. Et chaque village a ses propres coutumes, sa procession. Dans chaque rue, vous avez des petits lieux où il y a des statues. Alors, il y a la fête de la rue. Il y a des sacrifices, il y a de l'argent qui arrive même de l'étranger quand ils font la fête du Saint. Oui, il y a de l'argent qui arrive de tous les côtés. Et finalement, par ces rituels, les gens, ils s'accrochent à quelque chose. Ils cherchent quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils obtiennent ? Pendant une visite, pendant mon travail, je rencontre un homme qui me dit que lui, dans son village, ils ont la coutume de prendre un bout de liège, un bouchon en liège, où ils vont incruster plusieurs morceaux de verre. Et finalement, ils font une mixture avec des herbes et du vinaigre. Et avec ces bouts de verre, ils se frottent les jambes. Et après, ils aspergent avec ce liquide pour que le sang coule. C'est leur manière d'adorer Dieu et d'accomplir un sacrifice. Et cela pour obtenir ce qu'ils ont de besoin. Et cet homme, il me montrait fièrement ces photos où il y avait du sang de tous les côtés. Il me disait, si vous saviez, les rues du village, elles sont pleines de sang. Et je lui dis, mais vous avez fait ça pour quoi ? Pour que mes filles puissent se marier. Alors vous comprenez bien que ma question, elle fut très simple. Sont-ils mariés ? Il avait dit non. J'ai dit, vous avez fait ça combien de fois ? Ah, déjà 7 fois. J'ai dit, alors il doit y avoir un problème quelque part, monsieur. Et je lui ai parlé de la foi en Jésus-Christ, qui n'est pas une question parce que nulle part le Seigneur nous demande ce genre de choses. Mais cela est venu par une pensée, par un souhait, par un désir. La bonne volonté, vous savez, ne suffit pas. La véritable question, c'est comment je peux vraiment m'approcher de Dieu. Si c'est ça notre question, si la vraie question qui demeure dans notre cœur, c'est comment je peux m'approcher de Dieu, on doit être prêt aussi à accepter la réponse que Dieu nous donne, qui n'est pas forcément celle que nous, on a pu imaginer. Dans ce texte, pendant 20 ans, le cœur du peuple s'est détourné. Les habitants, finalement, de Beth-Shemesh furent frappés de mort car ils n'avaient pas tenu de compte du commandement du Seigneur qui avait interdit qu'on regarde ou qu'on touche les objets sacrés du sanctuaire. Et en examinant l'arche, ils ont montré qu'ils ne craignaient point l'Éternel et qu'ils n'avaient aucun respect pour les choses saintes de l'Éternel. L'honneur, le respect et la crainte respectueuse devraient caractériser la relation du peuple de Dieu avec son Dieu. Avoir du respect pour Dieu. Accepter que ce n'est pas comme nous le désirons, mais comme Dieu le veut. Dans notre texte, Uzza essaiera de toucher l'arche parce que finalement les animaux ont glissé et l'arche a bougé. On pourrait se dire, mais ce qu'il a fait n'est pas mauvais. À sa place, qu'auriez-vous fait ? Dites-moi. Certainement, le réflexe aurait été le même. Mais finalement, le problème, ce n'est pas de ce que Uzza a fait. Uzza a payé les pots cassés de la mauvaise décision du roi David et des sacrificateurs. Parce que la loi que Dieu avait donnée dans le livre des Nombres, on ne le lira pas, vous irez le lire vous-même tranquillement, c'est que l'arche, elle devait être portée par les sacrificateurs. Il y avait 2 barres qui étaient faites à cet usage et c'était en marchant à pied. Finalement, le peuple n'a rien fait de plus que refaire ce que les Philistins ont fait. Mais les Philistins, eux, ils ont mis sur un char parce que finalement, ce n'était pas leur Dieu. Le but pour eux, c'était de s'en défaire. Ils étaient déjà frappés par la punition de Dieu. Mais lorsque le peuple d'Israël, celui qui était dépositaire de la loi de Dieu, ont agi pas mieux que ceux qui n'avaient pas l'Éternel dans leur cœur, la conséquence a été catastrophique. Et Uzza sera un élément qui va rappeler, amener finalement le cœur des hommes à se remettre en question. Et le premier à se remettre en question, c'est David. David va devoir finalement se dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il va faire le choix de dire, moi, je ne veux pas la prendre chez moi à Jérusalem. Parce que si déjà ça commence comme ça ici, qu'est-ce que ça va être après ? Comment ça va finalement se régler cette situation ? Qu'est-ce qui va produire autant de souffrance ? Il est question pour nous finalement de dire, Seigneur, quelles sont les bonnes décisions à prendre ? Alors il choisit un homme. Il choisit Obed-Edom. Je ne sais pas comment cet homme a pris à accueillir la nouvelle. Imaginez qu'on vous dise, écoute, voilà, il y a eu ça à tel endroit, ça chez les Philistins, maintenant personne n'en veut, on le ramène chez toi. Ça cogite, hein ? On se dit, Seigneur, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est juste ? Pourquoi moi ? Hein ? Alors, est-ce que c'est un privilège ou c'est une punition ? Et la parole de Dieu nous dit quelque chose. C'est que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Juste vous dire que lorsque le roi David et le peuple avaient eu à cœur de faire revenir l'arche de l'Éternel chez eux, le sacrificateur leur avait dit, si vous voulez, par contre, attention, il faut enlever tous les idoles que vous avez. Pendant toutes ces années, le peuple s'était installé dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie n'est pas simplement le fait d'avoir une idole, une statue. Ça, c'est ce que la parole de Dieu appelle idolâtrie. Dieu lui-même donnera cet ordre dans les 10 commandements, tu ne te feras sculpture aucune. Il n'est pas question pour nous de tomber dans l'idolâtrie, mais parfois, il n'y a pas besoin forcément d'une statue pour être idolâtre. On peut idolâtrer même des personnes. D'ailleurs, les jeunes parlent de certains chanteurs comme un idole. Je vais plus loin, certains voient leur pasteur comme un idole. Que Dieu nous garde. Oui, parce qu'on pense que tout passe par lui. Il est parfait. Alors, je ne suis pas parfait. Si vous voulez plus de détails, vous allez voir mon épouse. Il est question pour nous de nous rendre compte que le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Le seul à qui nous devons rendre notre culte, c'est Dieu, et Dieu lui seul. La parole de Dieu nous dit, tu adoreras Dieu et lui seul. Donc, pourquoi se perdre dans des choses que la parole de Dieu ne conçoit pas ? En tous les cas, si on veut adorer Dieu, il faut l'adorer comme lui l'attend. Et dans ce texte, on voit que cet homme reçoit de la part du roi David, je ne sais pas si c'est une invitation, mais en tous les cas, il s'entend dire, écoute, l'arche va venir chez toi. L'arche va demeurer chez toi pendant 3 mois. Mais quelque chose va se passer qui nous permet aussi de dire que, heureusement, parmi le peuple, tout le monde ne s'est pas détourné de Dieu. Parce que ce qui va faire la différence, c'est le cœur de celui qui reçoit l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui avait eu ce coffret, cette arche chez lui pendant 20 ans, il n'y avait pas eu de choses particulières. Est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, 1 Samuel chapitre 7, verset 2 ? Il s'était passé bien des jours, depuis le jour où l'arche avait été installée à Kiriath Yarim, 20 années. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. » Donc ils étaient partis, hein. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Alors, il vous délivrera de la main des Philistins. Et les Israélites ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés et ils revinrent à l'Éternel seul. Il est question pour nous de comprendre que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. tu adoreras Dieu et lui seul, personne d'autre. Même si les autres ont pu faire des bonnes choses. Moi, je vais vous le dire. Si un jour, vous vous trouvez devant le Seigneur. Seigneur, je te prie dans le nom du pasteur que tu m'as donné. Il va vous dire, il est qui ? Mais je vous dis ces choses parce que parfois, je les entends. On choisit des hommes comme s'ils étaient des héros. Moi, le seul héros que je vois dans la parole de Dieu, c'est Jésus. Pour le reste, personnellement, je suis zéro. J'ai encore beaucoup, 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 beaucoup à apprendre. Et quoi que j'ai pu apprendre dans ma vie, je ne serai pas parfait par moi-même. J'aurai besoin de passer par le perfectionnement que seulement le Seigneur peut donner à ceux qui vivent avec lui. Ceux qui acceptent de le servir. Mais retenez ce fait, c'est que Samuel, il leur dit, si vous choisissez l'Éternel, si vous voulez l'adorer et le servir, deux choses importantes. Alors, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obénédom, de Gath, et l'Éternel bénit Obénédom. Finalement, dans cette histoire, pendant des années, le seul qui est béni, c'est lui. Il n'a rien demandé, mais il y a quelque chose qui va se passer au point que Dieu sait très bien comment faire les choses. Parce que quand j'ai commencé à chercher dans la parole de Dieu, je me suis dit, Seigneur, mais certes, un grand privilège pour Obénédom d'être choisi par le roi David pour abriter l'arche de l'Éternel chez lui. Cette même arche où résidait la présence de Dieu et de laquelle ce dernier s'adressait à Moïse. Ce n'était pas rien, non ? Mais il est difficile de savoir ce qui arriva pendant ces 3 mois. Je n'ai trouvé aucune description dans la parole de Dieu. En tous les cas, Dieu a béni cet homme et sa maison. Et je voudrais qu'on puisse réfléchir à ce qui est véritablement la bénédiction de Dieu. Parce qu'il n'est pas question forcément de considérer la bénédiction de Dieu quand il touche à nos moyens. Il ne me dit pas qu'Ebenedom il s'est acheté un nouveau char. Le dernier modèle. Il avait des chevaux 16 soupapes. Il avait beaucoup de chevaux sous le capot. Non. Ce que ça produit dans le cœur de cet homme, c'est que la présence de Dieu dans sa maison, elle lui a apporté quelque chose qu'il ne connaissait pas auparavant. Quelque chose qui a changé sa vie à tout jamais et qui a fait qu'à un certain moment, la présence de Dieu a envahi son cœur, son âme, sa personne, sa famille, son couple, ses enfants, peut-être même les serviteurs qui étaient chez lui. Et ça l'a changé à tout jamais. Lorsque Dieu touche le cœur de quelqu'un, il veut le changer à tout jamais. Et ce n'est pas juste pour que nous puissions bien chanter. Ce n'est même pas pour que nous puissions bien jouer des instruments. Non, 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 c'est bien plus là. Parce qu'on peut être, excusez-moi, comment on dit ça ? On peut chanter comme une cloche rouillée. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Et pour autant être bien entendu par Dieu. Il y en a certains, quand ils chantent, on voit le changement du temps. Le climat se modifie. Au plein mois d'août, vous avez la neige. Le vent se lève. Les nuages apparaissent. Ils arrêtent. Le beau temps arrive. Mais je peux vous dire que j'ai vu des gens et j'ai entendu des personnes qui avaient du mal parce que leur voix ne leur permettait pas. Mais leur cœur, oh leur cœur quand ils parlaient de l'Éternel. Il y avait un feu qui embrasait leur cœur, mais aussi ceux qui étaient autour. Et chacun était impacté parce qu'on sentait qu'il y avait une véritable relation avec Dieu. Obénédom était en train de vivre une véritable relation avec Dieu. J'ai trouvé 2 textes qui nous parlent encore de lui. Le premier, il est en 1 Chronique, chapitre 15, verset 24. Saban Yahou, Josaphat, Nathanel, Amasai, Zacharie, Benaïaou et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Edom et Yékia étaient portiers de l'arche. Adorer Dieu, c'est le servir aussi. Adorer Dieu, c'est finalement se mettre au service de Dieu. 1 Chronique, chapitre 26, on va plus loin, du verset 1 au verset 4. Classe des portiers, des coréites. Alors vous me faites, voilà, comme vous l'avez dit, fils de Corée, d'entre les fils d'Azaph, fils de Meshaluahamou, Zacharie le premier-né, Yadel le second, Zébadiou le troisième, Yantiel le quatrième, Elam le cinquième, Yohanam le sixième, Eloyani le septième, fils d'Obed-Edom, Shemaya le premier-né, Jérusalem seconde, Yoa le troisième, Sakar le quatrième, Nathanaël le cinquième. Ça n'a pas seulement eu un impact sur la vie d'Obed-Edom, mais sur ses enfants. Qui voudrait que ça ait un impact sur ses enfants? Recevoir la gloire de Dieu dans notre foyer, frères et sœurs, ce n'est pas donner à Dieu, excusez-moi, les restes de notre temps. Ce n'est pas donner à Dieu si on a le temps. C'est finalement se dire, Seigneur, moi je suis là, toi tu es l'essentiel dans ma vie. Je suis là pour te servir. Et ce que nous vivons, puisqu'il est question pour nous finalement d'incarner la parole de Dieu, de la vivre, mais forcément ça doit interpeller aussi nos enfants. Ça devrait les amener à avoir envie. Quand on fait les baptêmes, moi j'aime voir les enfants venir au plus près. Je me dis, Seigneur, saisis leur cœur. Seigneur, touche leur cœur. Fait qu'ils vivent dans le souhait, dans le désir, dans la volonté de dire « Mais moi aussi, je veux m'engager avec Jésus. » Parce que Dieu fait des miracles à tout âge. Croyez-vous cela? J'ai raconté ce petit témoignage à Beaucaire, petit témoignage, si on veut dire petit. J'étais très jeune et je commençais à prêcher la parole de Dieu. Les premières fois que j'ai prêché à l'église en Calabre, au bout de 5 minutes, je suis descendu de l'estrade. J'avais l'impression d'avoir prêché pendant 3 quarts d'heure. J'étais en sueur et mon père a dû prendre la suite pour que le message dure un tout petit peu plus. Et donc, on apprend. Et finalement, j'ai compris qu'il fallait passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Chercher auprès de Dieu ce que moi, je n'avais pas, ce que je ne savais pas. J'ai demandé à Dieu de m'apprendre, de m'instruire. Personnellement, je n'ai pas pu faire l'école biblique. Mais je lui ai dit, Seigneur, le meilleur prof, c'est toi. Tu vas m'aider. Ça va être compliqué parce que je ne suis pas un bon élève. Je n'ai pas de bonne mémoire. Mais toi, Seigneur, tu sais comment faire rentrer les différents livres dans ma tête. Alors, vas-y. Et parmi les choses que j'ai vécues au démarrage de mon apprentissage du service du Seigneur, c'est ce que j'ai vu à une réunion d'évangélisation où un homme arrive parce qu'on avait mis des affiches « Dieu libère, Dieu sauve, Dieu guérit ». Et cet homme, il vient, il était en pleine dépression et il vient à la première réunion avec sa petite, une petite fille qui avait à peu près 3 ans et demi, 4 ans, Marie. Et donc le papa, il vient, il est vraiment dans un état difficile, compliqué, et il commence à venir aux réunions, et plus il vient aux réunions, mieux il se sent. Et il nous disait, chaque fois que je viens aux réunions, je me sens bien, je suis bien ici. Et la petite, elle venait avec un grand plaisir, on n'avait pas encore toute cette technologie, on était encore avec les livrets papier, vous savez, ce support de l'âge des Égyptiens, les papyrus. Et donc la petite, elle venait avec un petit cahier, elle s'asseyait devant le pupitre, elle prenait le livre, elle le mettait à l'envers, elle ne savait pas lire, mais pour elle était déjà grande. Et elle ne bougeait pas. Donc un jour, quelqu'un me dit, frère, on l'a fait déplacer. Je dis, vous ne la touchez pas, laissez-la, elle est tranquille, elle ne dérange personne. Moi, elle ne me dérange pas en tous les cas. Moi, je me réjouissais de voir cette petite jolie comme une poupée, bien. Vous savez, ces enfants, vous avez envie de leur faire plein de bisous. Et à chaque fois qu'il y avait un appel, le papa, il venait, on priait pour lui, on demandait au Seigneur sa grâce. Et quand on chantait, cette petite est chantée de tout son cœur. Et un jour, le papa, il ne va pas bien, ils sont dans leur jardin, et la petite, elle lui dit, papa, qu'est-ce que tu as ? Elle dit, papa, ça ne se sent pas bien. Et lui dit, viens, assieds-toi, il y avait un petit bond. Et la petite, elle monte derrière son père. Il lui impose les mains, il dit, je vais faire comme le pasteur. Et il prie pour le papa, et le papa est délivré à l'instant de sa dépression. À l'instant, elle avait 5 ans. Quand on l'a vu revenir, changer, métamorphoser, qui nous a dit ce qui s'est passé, ah, j'étais jaloux quand même. Mais en même temps, heureux. Parce que je me suis dit, Seigneur, cet enfant, elle s'est laissée finalement remplir de ta présence dans son cœur. Et le miracle, c'était aucunement un homme qui pouvait l'accomplir. C'est Dieu qui l'a accompli, mais elle a été un instrument. Si nous voulons être des instruments entre les mains de Dieu, on doit laisser Dieu nous remplir de sa parole, de son esprit, de son amour, de sa sagesse. Obed-Edom a fait un choix qui était celui de dire, moi, à partir de maintenant, je ne vais plus m'occuper de mes affaires, je vais m'occuper des affaires de Dieu. Et je voudrais juste terminer avec ce texte, qui est aussi le reflet finalement du chant de David. Psaume 84, verset 11. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. C'est clair, c'est net, c'est précis et sans bavure. Que le Seigneur nous donne de le vivre. Obed-Edom aimait la présence de Dieu comme son nom l'indique, qui signifie adorateur. Que Dieu fasse de chacun de nous des hommes et des femmes qui sont des véritables adorateurs. En passant du temps à prier, à aimer et à adorer, nous serons transformés en toujours et en ayant toujours ce désir le plus profond de suivre le Seigneur, peu importe l'endroit où il nous demande de le suivre. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ? Seigneur, par ta parole, et Seigneur, on peut apprendre tellement de choses, mais nous ne voulons pas être de ceux qui entendent seulement, mais être aussi de ceux qui mettent en pratique. Père éternel, je te prie que l'exemple de cet homme, Seigneur, nous puissions nous aussi en saisir le sens, en saisir, Seigneur, le choix. Seigneur, vivre la même réalité que lui, il a vécue pour lui, pour sa famille. Seigneur, finalement, qu'est-ce que c'est 3 mois vis-à-vis de 20 ans ou d'autres de temps qui sont passés où l'arche a été accueillie et finalement les cœurs n'ont pas été changés. 3 mois, ce n'est pas grand-chose et pourtant, Seigneur, tu as changé leur vie. Seigneur, nous te prions de nous garder de tomber dans la religiosité, de nous garder, Seigneur, de tomber dans des protocoles, dans des coutumes, dans des usages religieux, mais que nous puissions finalement apprendre à te connaître, toi le seul et vrai Dieu. Que nous puissions véritablement t'adorer, te louer, te servir, puisque c'est à ça, Seigneur, que l'adoration nous pousse, à te servir. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à grandir dans notre foi. Aide-nous à grandir dans notre engagement avec toi, Seigneur. À savoir te donner la place qui te revient, la place, Seigneur, centrale de notre vie. Seigneur, c'est toi qui dois être assis sur le trône de notre cœur. C'est toi qui dois gouverner notre vie. C'est toi qui dois diriger notre existence. Seigneur, nous te prions pour nous, mais nous te prions aussi pour nos enfants. Nous te prions pour nos familles, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, aussi pour notre entourage. Que, Seigneur, les uns les autres puissent voir, Seigneur, le changement que tu as accompli dans notre cœur et dans notre vie. Seigneur, que la bénédiction qui vient de toi, Seigneur, soit celle qui attire les cœurs vers toi, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas le matérialisme qui va finalement nous apporter quoi que ce soit, mais c'est ta présence dans notre cœur et dans notre vie. Et pour cela, nous te disons, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Et qu'à toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen.